Quel plaisir de vous accueillir chaque week-end, Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Plaisir partagé, bonjour Eric, bonjour à tous.
D'abord une question, quelle est la différence entre une azalée et un rhododendron?
Si la question est simple, la réponse n'est pas évidente et pour bien la comprendre, il est d'abord utile de parler histoire et surtout étymologie. Rhododendron a pour origine le grec rhodo qui signifie rose et dindron arbre. Le problème, voyez-vous, est que ce nom rhododendron désignait autrefois le laurier rose, d'où une première confusion. Il est ensuite appelé rosage, du latin rosago, un mot qui a pour origine rosa, la rose. Ce n'est qu'en 1545 que le rhododendron portera officiellement son nom. Et encore, quand le botaniste Joseph Piton de Tournefort revient d'Asie mineure en 1702 avec un pied de rhododendron ponticum, il le nomme encore rosage de la mer Noire.
Alors ça c'est pour l'étymologie de rhododendron, quelle est maintenant l'étymologie du nom azalée?
Il faut attendre les années 1800 pour voir apparaître ce mot dans notre vocabulaire. D'origine latine, azalée a signifie aride ou sec, et cela correspond assez justement aux plantes cultivées en serre qu'il faut arroser si on veut les conserver en vie, d'autant que la terre de brouillard dans laquelle elles vivent se dessèche très vite, et c'est le cas par exemple avec l'azalea indica, aussi appelé rhododendron indicum.
Alors, rhododendron azalée, si j'ai bien compris, les deux noms désignent finalement le même végétal.
C'est exactement ça. Les botanistes découvrant sans cesse de nouvelles espèces, il en existe aujourd'hui près de 600, le plus souvent originaires des régions montagneuses de l'hémisphère nord et d'Asie en particulier. Les botanistes, disais-je, décident de regrouper dans un même genre les azalées et les rhododendrons.
Alors, comment les distinguer?
Au XVIIIe siècle, les plantes cultivées en intérieur sont des azalées et celles qui poussent dans les jardins, des rhododendrons. Ce n'est pas plus compliqué. Il est ensuite décidé de baptiser les rhododendrons de petite taille azalées. Le problème est qu'il existe des rhododendrons géants qui peuvent atteindre 15 mètres de hauteur et d'autres nains qui dépassent à peine les 20 cm. Pour répondre donc simplement à votre question, sachez simplement qu'il existe aujourd'hui des azalées au feuillage caduc. Sachez aussi que les feuilles des azalées sont généralement plus petites que celles des rhododendrons et que leurs fleurs offrent souvent des coloris plus vifs et surtout plus variés. Sachez enfin, et pour conclure, que si les azalées se distinguent facilement de par leur apparence, elles ont toutes pour nom botanique rhododendron.
Mais voilà, quelques précisions. J'ai compris quand même que azalée c'est l'intérieur, rhododendron c'est dehors.
Ah oui, c'était comme ça qu'on les différenciait effectivement autrefois.
Vos conseils maintenant. Et vos précieux conseils pour les auditeurs de France Inter, Berthe vous demande, Berthe vient de planter ses géraniums, mais elle s'inquiète car les feuilles rougissent.
Alors le géranium que l'on appelle également pélargonium, le véritable nom du géranium c'est le pélargonium. Le géranium est une plante vivace que l'on trouve souvent dans les prairies, une très jolie fleur d'ailleurs. C'est normal quand on plante un petit peu trop tôt. Il faut savoir que les plantes ont besoin d'être produites dans un environnement protégé, à l'abri des rayons brûlants du soleil. Et quand le géranium n'a pas eu le temps, c'est un terme, de se durcir, eh bien il y a un phénomène au niveau du feuillage qui fait que les feuilles rougissent, sèchent et tombent. Rassurez-vous, elles vont repartir. Ça ralentit quelque peu le démarrage de la plante, mais ce n'est pas un drame. J'en profite pour rappeler un petit truc simple que l'on oublie de faire. Quand vous plantez des pélargoniums, retirez les fleurs. La plante se fatigue pour fleurir. En retirant les fleurs, vous favorisez le développement des racines, des tiges et des feuilles. Vous perdez 15 jours de floraison, mais vous vous y retrouverez largement quelques mois plus tard.
Pélargonium, géranium, même fleur.
Oui, cornichon, concombre, même végétal aussi.
Même végétal aussi.
Piment, poivron, idem.
Bon, on va faire une petite série comme ça pour la prochaine fois. Tiens, pourquoi pas. Alain vous demande, est-ce que les fruits du cornouiller mâle sont comestibles?
Alors le cornouiller mâle, on l'appelle aussi le cornouiller sauvage, sont comestibles. C'était d'ailleurs autrefois, je parle au 17e, 18e, 19e, un fruit très apprécié, mais il est d'une qualité médiocre. Il a un petit goût, un petit côté de cerise, mais un peu aigre. Alors, on peut consommer le fruit qui apparaît au début du printemps. La floraison du cornus mas, son nom latin, est très précoce. En février, la plante est déjà en fleur. Donc, les fruits, c'est à peu près maintenant. Donc, soit on les consomme bled, mais franchement, il n'y a aucun intérêt. En confiture, en marmelade, c'est pas si mal que ça.
Nicolas aimerait bien masquer un immeuble à côté de chez lui, un immeuble très haut, très moche, dit-il. Est-ce qu'une haie de thuya conviendrait?
Alors je sais que quand on parle thuya dans le monde du jardin, immédiatement on parle de béton vert. Le thuya, c'est pas si laid que ça, et parfois il vaut mieux avoir une haie de béton vert plutôt que du véritable béton qui vraiment vous empoisonne la vue. Il faut également savoir que le thuya est la première essence végétale introduite du continent américain américain. Il a été découvert par Jacques Cartier, avec ça ne remonte pas à hier, et que dans son milieu naturel, la plante atteint 35 voire 40 mètres de hauteur. En France, un thuya non taillé peut largement atteindre 20 à 25 mètres de haut. C'est considérable. Donc oui, il est parfaitement possible de planter une haie de thuya pour masquer une vue disgracieuse.
Le thuya qui devient parfois sec et marron, il est mort dans ce
cas-là ? Alors ça, c'est un problème parce que il y a des maladies comme des champignons, il y a quantité de bestioles comme les araignées rouges qui se délectent dans le thuya. Le problème du thuya, voyez-vous, c'est que quand il est marron, il faut tout de suite vérifier la cause. Si par exemple les tiges sont creuses, il peut y avoir des buprestes. Ce sont des insectes qui creusent des galeries, dans quel cas il faut couper la partie contaminée. Mais sachez que je n'ai jamais vu en 40 ans de maison, et oui, 40 ans déjà, le moindre conifère reverdir. Donc quand un thuya commence à sécher sur pied, on le coupe, on n'attend pas qu'il contamine le reste de la haie.
40 ans de maison, vous ne les faites pas.
Je vous remercie.
Vous avez 6 mois quand vous êtes arrivé
oui,
à Versailles.
Vous étiez bébé. Enfin, merci.
Lucie vous demande, Alain, est-il possible de bouturer des dahlias ?
Eh bien oui, on n'y pense jamais, mais c'est bien sûr possible. Il vous suffira simplement de prélever des jeunes pousses le plus proche possible des tubercules, de les mettre dans un sol très riche, mais surtout de les mettre sous cloche. Et quand vous le faites ainsi, que vous garantissez une température minimale de 15 degrés, je vous rappelle que les dahlias sont originaires du continent sud-américain, eh bien oui, vous pourrez obtenir par bouture, des dahlias. J'en profite pour rappeler que le mode de reproduction de bouture a un inconvénient immense. Elle est la seule méthode qui garantit de reproduire de manière parfaite l'espèce que l'on veut reproduire.
Une question de droit maintenant que vous pose Aimable. Est-il vrai que je peux planter des arbustes uniquement à partir de 2 mètres minimum de la clôture de mon voisin ?
Tout dépend de l'endroit où vous habitez, en pleine ville. Il est parfois possible de planter à l'aplomb même de la propriété. Il faut par contre vérifier si les règlements communaux l'autorisent. Mais oui, il est parfois possible de planter juste au niveau de la clôture.
Un conseil de promenade,
C'est aujourd'hui, c'est donc à Marseille, au Parc du Prado. C'est l'inauguration du prix Botany for Change. C'est un prix qui est international, qui est créé pour justement encourager les jeunes qui font des études en botanique, en horticulture, en architecture et en paysage. Il y a tout un jury qui a cette année élu le Jardin des Nymphes. Le Jardin des Nymphes, c'est aujourd'hui qu'il sera possible de le découvrir en présence des créateurs Nicolas et Mathilde de l'école marseillaise de l'ENSP.
Merci Alain Baraton et à demain.